Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et jusqu'à 11h, heure de Paris, c'est la Libre Antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. Vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours. C'est l'occasion, vous le savez, de revenir sur des événements qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de débattre ensemble durant l'émission. Des sujets dont on n'a pas suffisamment parlé, selon vous, sur notre antenne. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Vous êtes ce matin encore très nombreux à souhaiter nous parler du référendum constitutionnel annoncé au Congo-Brazzaville, annoncé par le président Denis Sassou Nguesso. C'est un projet qui est loin de faire l'unanimité. Officiellement, je vous le rappelle, il s'agit d'un référendum pour changer de gouvernance, mais l'opposition y voit surtout une manœuvre pour permettre au chef de l'État de briguer un troisième mandat l'année prochaine et par ricochet de se maintenir au pouvoir. Bonjour Rocher.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Bienvenue sur notre antenne. Vous rejoignez un peu le discours de l'opposition puisque vous dénoncez un coup d'État constitutionnel.
Alors Juan Gomez, je voulais d'abord saluer l'infatigable équipe d'RFI et je voulais saluer également tous les auditeurs d'RFI.
D'accord.
Alors c'est quand même aberrant et c'est très touchant de constater ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais j'aimerais d'abord poser une question, mais j'en ai deux à vous poser, Juan Gomez.
Ah, moi, je ne réponds pas aux questions. Hein. Là, on est pour débattre, on est là pour donner les points de vue. Vous êtes là pour donner votre point de vue, voilà. Roger.
Alors, tout à fait. Alors, on ne comprend pas que c'est depuis 30 ans que le président Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, mais curieusement, nous avons assisté à son dernier message qu'il a publié à la Nation, que deux jours avant, il a installé dans tous les carrefours de la ville de Pointe-Noire des forces de l'ordre, des militaires bien armés. Alors ma question est de savoir, s'il se reproche de rien sur son message qui venait de passer, pourquoi donc avoir dispersé ou installé dans tous les carrefours de la ville de Pointe-Noire des militaires en armes?
Enfin, vous me posez la question à moi. Alors moi je n'ai pas la réponse. Effectivement, il y a eu un déploiement de policiers peu après l'annonce de cette de ce référendum constitutionnel. Mais c'est une présence discrète. Vous pouvez pas dire le contraire, Roger, puisque moi-même je me suis renseigné. Vous avez été quelques-uns effectivement à nous faire part de cette remarque sur les réseaux sociaux. J'ai donc appelé le correspondant sur place qui me dit voilà présence discrète de la police. D'ailleurs, à Brazzaville, l'opposition a pu manifester sans aucune difficulté dimanche. Il y avait plusieurs milliers de personnes dans les rues pour dire non à ce référendum constitutionnel. Roger, mais vous êtes contre ce référendum, mais pour quelle raison?
Alors, Juan Gomez, je voulais tout simplement dire à quoi il nous sert ce référendum. Dès lors qu'on sait que le pouvoir du président des États sont désormais fin l'année prochaine, donc en août, à quoi y faire? Je pense que le référendum, s'il faut à juste titre le parler, on le laissera au bon soin du nouveau président qui va arriver en 2016. C'est à lui, effectivement, de regarder si cette constitution elle n'est pas bonne, s'il faut modifier la constitution pour une nouvelle gouvernance, c'est au nouveau président qui va arriver. Donc je ne vois pas la raison à laquelle le pouvoir en place veut amener le peuple vers un référendum, sinon que de masquer leur volonté de se maintenir au pouvoir.
Donc pour vous, il y a clairement une volonté de revoir les articles concernant notamment le nombre de mandats présidentiels et l'âge limite pour être président de la République. Franck nous appelle, lui, de Brazzaville. Bonjour Franck.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes favorable au référendum?
Oh oui, justement, monsieur Juan, je suis mon interlocuteur. C'est comme s'il ne comprend pas, par exemple, pourquoi on doit faire pourquoi une constitution. Le fixisme n'est pas de ce monde-là. On va faire évoluer, par exemple, notre pays. Et nous avons en tête que la constitution doit être un rempart juridique contre les dérives politiques possibles. Et nous avons constaté que le Congo a connu beaucoup de problèmes. Il y a eu des guerres, il fallait par exemple l'arrêter. Donc la constitution du 20 janvier 2002 a permis de régler cette situation. Et malgré ça, le peuple congolais est averti. Il y a eu par exemple des ministres qui se sont permis de séquestrer d'autres ministres sous prétexte qu'il y avait une dénonciation. Nous voulons plus ça, nous voulons plus ça.
Donc il faut réformer la Constitution. Mais pourquoi vouloir organiser un référendum constitutionnel à un an de l'élection présidentielle? Vous pensez bien que pour une partie de la classe politique, et notamment pour l'opposition, ce projet peut paraître un peu suspicieux.
Oui, mais monsieur Rouhan, j'appelle par exemple mes frères de l'opposition de se constituer, c'est-à-dire d'aller sur la base des idées. Vous venez de suivre par exemple mon interlocuteur, il va sur des raisons fallacieuses. Sassou ne les a pas dit qu'il sera candidat au présidentiel. Il ne les a pas dit. On fait évoluer la clé. Regardez, monsieur Rouhan, nous constatons qu'aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont là pour défendre, pour édicter des lois, sont des gens parfois sans référence qui n'arrivent pas à défendre cette disposition.
D'accord, mais quel rapport avec la Constitution? Qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans la Constitution?
Il y a beaucoup de choses qu'il faudra modifier. Il faut permettre à tout le monde, ne pas par exemple limiter l'âge, mais pas limiter l'âge.
L'âge pour être candidat à l'élection présidentielle.
Il y a eu par exemple avant nous, des gens qui ont commencé à diriger dans ce pays-là à 23 ans. Pourquoi est-ce qu'on va demander à quelqu'un de venir au pouvoir à 40 ans, 45 ans?
Ouais, aujourd'hui, effectivement, la Constitution interdit à ceux qui ont moins de 40 ans d'être candidat à l'élection présidentielle, et elle interdit ceux qui ont plus de 70 ans d'être également candidat. Autrement dit, le président Denis Sassou Nguesso, qui a aujourd'hui 72 ans, en aura 73 l'année prochaine, et quoi qu'il arrive, en fonction de la Constitution actuelle, il ne pourra pas briguer un nouveau mandat. Bon, Roger et Franck, merci à tous les deux. On aura l'occasion, évidemment, de prolonger le débat dans les prochaines semaines, d'autant qu'il suscite toujours autant de réactions au Standard et sur la page Facebook de l'émission. Jean de Dieu, bonjour.
Bonjour, Yohann Gomez. Bonjour à tous les Burundais, à tous les Burundaises opprimés et assassinés par le pouvoir sanguinaire de Pierre Nkurunziza,
Jean de Dieu,
président du Burundi.
D'accord. On va parler justement du Burundi. Vous êtes en Australie. Vous réagissez à la décision de l'Union européenne de sanctionner justement 4 Burundais impliqués dans la répression contre les manifestants qui s'opposaient au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Il s'agit de restrictions de déplacement et de gel de leurs avoirs. Vous saluez, vous, l'initiative de l'Union européenne?
Oui, je salue cette initiative, bien que je la juge insignifiante et surtout illusoire vis-à-vis de ces personnalités sanctionnées. Mais quand même, ça ne fait que commencer. Donc, nous saluons cette initiative. Donc, nous exhortons d'autres organisations de prendre davantage d'autres sanctions pour contraindre le pouvoir usurpateur de Bujumbura de négocier et surtout de donner la paix à la population burundaise.
Mais le gouvernement, excusez-moi Jean de Dieu, le gouvernement dit vouloir négocier justement et dialoguer.
Non, je pense que c'est justement tromper l'œil de la communauté internationale. Comment voulez-vous dire, Yohann Gomez, que vous voulez négocier alors que vous continuez la répression sauvage envers le peuple? Comment voulez-vous dire que vous négociez alors que vous dites que vous ne voudriez pas négocier avec ceci ou celui-là?
Oui, parce que le gouvernement dit, attendez, excusez-moi, je replante le décor et je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui ne suivent pas forcément au quotidien l'actualité burundaise. Le gouvernement dit, nous voulons négocier, mais pas question de discuter, de négocier avec des dirigeants de l'opposition ou de la société civile qui sont poursuivis pour insurrection.
Alors, comment alors pouvez-vous dire que ces négociations peuvent aboutir à quelque chose qui pourra amener une paix durable au Burundi, quand vous dites que, justement, à cause du troisième mandat illégal du président, les gens qui sont contre, vous ne voulez pas négocier avec eux? Parce que, pour moi, il ne s'agit pas d'un dialogue. Il faut bien négocier pour que ce pouvoir puisse négocier la sortie de l'ancien président. Puisqu'il n'est plus président du Burundi, compte tenu de ce que la constitution du Burundi stipule. Donc, voilà que ce pouvoir doit accepter de négocier avec les acteurs clés de la crise burundaise.
Ouais. Et ce dialogue, Jean de Dieu, ce dialogue, il doit se dérouler au Burundi ou dans un autre pays?
Pour le moment, compte tenu de la répression sauvage, compte tenu des atrocités massives commises envers les gens de l'opposition, la sécurité n'est pas totale à Bujumbura pour que ces négociations puissent se dérouler dans un climat paisible. Donc il faut qu'il y ait un pays tiers pour que ces négociations, quand même, les participants puissent se sentir en sécurité. Sinon, pouvoir peut les assassiner tous.
Des négociations, donc, à l'étranger. Merci beaucoup, Jean de Dieu. Merci d'écouter RFI en Australie. Vous nous appeliez d'Adélaïde, pour être précis. 33 9 693 693 70. C'est la libre antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. Mamadou nous appelle de Conakry. Bonjour, Mamadou.
Oui, bonjour, monsieur Juan. Bonjour, oui, à tous les auditeurs de RFI et à votre équipe. Et
merci pour eux. Vous réagissez-vous à l'inauguration cette semaine du barrage de Kaleta, le plus grand barrage hydroélectrique de Guinée, qui va permettre notamment aux habitants de Conakry de sortir de l'obscurité. Fini donc les intempestives coupures d'électricité. Et Mamadou, vous nous avez appelé justement pour témoigner et vous constatez clairement la différence depuis la mise en route de ce grand barrage hydroélectrique.
Oui, monsieur Juan, il faut dire que le barrage de Kaleta a été inauguré ce lundi par le pouvoir guinéen, en l'occurrence monsieur Alpha Condé.
Oui.
Et permettez-moi d'abord de souhaiter bonne fête à tous les Guinéens. Il faut rappeler qu'aujourd'hui c'est le 2 octobre en Guinée, pour ceux qui connaissent.
Et c'est la fête de l'indépendance.
De l'indépendance de mon pays. Donc, sur ce barrage, je voulais dire que il y a eu, à mon avis, une inauguration précipitée du gouvernement guinéen, compte tenu, bien sûr, des élections présidentielles, du premier tour des élections présidentielles prévues ce 11 octobre en Guinée. Pourquoi précipiter? Parce que, bon, il y a beaucoup de problèmes concernant l'électricité en Guinée, il faut le reconnaître, mais... les trucs devaient être réglés en avance, c'est-à-dire le transport de l'électricité de Kaleta
Attendez, Mamadou, je vois pas où vous voulez en venir. Je croyais que vous aviez un témoignage, puisque vous disiez au standard, voilà, moi, je vois que dans mon quartier, on a désormais l'électricité 24 heures sur 24, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Bon, apparemment, c'est pas là-dessus que vous avez envie d'intervenir. Je voudrais qu'on accueille Sori, puisque vous avez été quelques-uns de Conakry, justement, à vouloir nous parler de ce projet. Bonjour, Sori.
Bonjour, Anne. Bonjour à tous vos auditeurs. Et naturellement, bonne fête à la diaspora guinéenne.
Vous saluez ce projet?
Ah oui, naturellement. La réalisation du barrage hydroélectrique de Kaleta doit être saluée pour un certain nombre de raisons. Premièrement, depuis l'indépendance de la Guinée, sa capitale s'était toujours illustrée par la pénombre généralisée de ses quartiers. Pour une fois, on a le courant stable, nuit et jour. Je vais vous raconter une petite histoire. Le premier jour que Kaleta a été lancé, quand le courant a passé la journée dans les quartiers, j'ai une petite fille de 6 ans dans ma maison. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle me dit, papa, le courant n'est pas parti aujourd'hui. Ça illustre la situation catastrophique dans laquelle on était. Je me suis dit, si cette petite fille était née sous d'autres toits, dans d'autres pays, c'est l'inverse qu'elle allait poser comme question. Il y a coupure, elle a dit, papa, le courant est parti.
C'était donc la première fois de sa vie qu'elle a eu de l'électricité toute la journée, 24 heures sur 24. Effectivement, à l'instant, Mamadou disait, oui, le moment choisi pour inaugurer ce barrage n'est pas anodin, puisqu'effectivement, dans quelques jours, ce sera l'élection présidentielle. Mais ce barrage, c'était quand même le projet phare du quinquennat du président Alpha Condé. Il avait promis l'électricité aux Guinéens.
À mon avis, il faut arrêter de voir la politique dans toutes les réalisations. La réalisation de ce barrage est loin d'être un jeu politique ou une visée politicienne. Ça répond aux aspirations profondes du peuple de Guinée. Je vous dis, on avait le courant 3 heures, 4 heures dans les 24 heures en Guinée. Les élèves et étudiants revisaient sous les panneaux solaires de l'aéroport. Ça a dégradé l'image de la Guinée. Pour une fois, on a eu un homme qui a une vision. Parce que, vous savez, tous les gouvernements qui se sont succédés en Guinée avaient opté sur les solutions les plus faciles, c'est-à-dire le thermique, payer un groupe électrogène, trouver du mazout et produire de l'électricité. Tout le monde sait que cette solution n'est pas une solution viable.
Oui, c'est une solution en plus qui n'est pas viable et qui en même temps est très polluante.
très nuisible à l'environnement. Mm. Pour une fois, on a eu un président qui a eu une vision de réaliser l'hydroélectricité. Vous savez, à quelques mois de la tenue de la COP 21, le problème de l'émission de CO2 se pose au niveau mondial. Et pour les pays africains, les secteurs qui émettent beaucoup de CO2, c'est l'agriculture et la production énergétique. Parce que nous ne sommes pas industrialisés.
Merci Sori de nous avoir appelé. Merci de cette réaction. Bonne journée à Conakry. Il nous reste 5 minutes. Il y a beaucoup de sujets que vous souhaitez aborder. Tiens, on va parler de la démission du puissant gouverneur du Katanga en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi. On vous en parle depuis quelques jours, a claqué la porte du parti présidentiel. Bonjour Dominique.
Bonjour Monsieur Gomez, bonjour à tous vos auditeurs.
Vous êtes Congolais, vous êtes né au Katanga, c'est ce que vous avez dit au Standard. Et pour vous, cette démission dont on parle tellement, c'est un non-événement.
Pour moi, c'est un non-événement, tout simplement parce que la démission de Monsieur Katumbi couvait depuis quelque temps. Un non-événement, pourquoi? Tout simplement parce que le départ de Monsieur Katumbi ne va rien changer à l'influence du grand parti PPRD qui est dirigé actuellement par M. Mova Sakani. Demandez tout simplement à votre correspondante sur Kinshasa, Mme Belster, qui vous dira combien de militants, combien de personnes adhèrent vont prendre leur carte au parti. Monsieur Katumbi...
Donc pour vous, ce n'est pas le fait qu'il claque la porte du parti présidentiel, ce n'est pas un séisme au sein de ce parti?
Pas du tout, parce que je viens de passer 3 mois à Kinshasa, j'ai regardé l'opposition congolaise à Kinshasa, ou l'opposition tout simplement au Congo, il n'y a rien de crédible par rapport à ce grand parti que le PPRD qui est dirigé aujourd'hui par M. Mova Sakani.
D'accord, vous l'avez cité 2 fois en l'espace d'une minute. Dominique, ne raccrochez pas, on a Félicien qui est lui sur place à Kinshasa. Bonjour Félicien.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous dites que c'est une bonne chose la démission de Moïse Katumbi.
Oui, c'est une bonne chose parce que je pense qu'un homme comme Katumbi, s'il a pris une telle décision, c'est que c'est vraiment réfléchi et pour la démocratie congolaise, je pense qu'il faut quand même deux sons de cloche de ce genre. Et comme il a décidé de partir, je pense qu'il va contribuer énormément à l'évolution de la démocratie dans notre pays.
Mais pourquoi? Quand justement Moïse Katumbi dit « j'ai claqué la porte du parti présidentiel à cause des dérives inacceptables du pouvoir », vous pensez que ça peut changer quelque chose? Ça peut changer la donne politique?
Je pense que ça doit changer quelque chose. Parce que même ceux qui croient, ceux qui pensent ou qui disent que il y aura quelque chose, il y aura un impact. Qu'on le veuille ou pas, il y aura un impact. Parce qu'il rejoint l'opposition, il rejoint le G7 et ensemble. Ça va faire bouger la politique dans notre pays.
Enfin, rien ne dit qu'il y aura une alliance entre le G7, les frondeurs du parti présidentiel, l'opposition et Moïse Katumbi. Dominique à Paris, votre analyse?
Monsieur Gomez, si Monsieur Moïse Katumbi a choisi de partir, c'est tout simplement, il a peur parce qu'il y a des enquêtes qui ont été diligentées contre la gestion qui était la sienne dans le Katanga. Ce monsieur s'est permis de chasser des magistrats qui avaient été envoyés dans le Katanga pour mener des enquêtes et il s'est comporté comme un petit potentat. C'est suite à cela que ce monsieur prend le devant sous prétexte que c'est pour la gestion du parti qui n'est pas bonne et qu'il compte contester.
Oui, en tout cas, Moïse Katumbi s'explique ce matin sur l'antenne d'RFI, entretien que vous avez pu écouter peut-être dans la matinale. Sinon, vous pourrez l'écouter à tout moment sur notre site RFI.fr. Moïse Katumbi qui répond donc aujourd'hui aux questions de Christophe Bouvier. On aura l'occasion lundi, on va consacrer le débat de lundi justement à la démission de ce gouverneur, de Moïse Katumbi, mais aussi au départ de 7 formations politiques qui ont récemment quitté la majorité présidentielle. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant vous inscrire. Je vous souhaite d'ici là de passer une excellente fin de semaine.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et paiement mobile.